je suis 16e, ce qui implique une faiblesse avouée, c'est-à-dire un goût pour les traductions, et notamment pour les traductions commises par des faussaires. Voilà. Alors, une fois ce préambule posé, je voudrais parler donc de Folloudi. Dans un article assez, assez récent sur une traduction récente elle aussi de Rabelais en hongrois, Eva Bánki rappelle comme un lieu commun le fait que la traduction de Rabelais en hongrois est tardive. À telle enseigne que c'est vrai que dans l'éventail chronologique européen, qui s'ouvre avec des traductions de Johann Fischart de 1575 à 1590, donc connu sous le titre de Geschichtsklitterung, les traductions hongroises sont effectivement à peu près à l'opposé, c'est-à-dire au XXe siècle. Alors je dirai quelques mots sur ces traductions, dans un premier temps, puis j'en viendrai au cas de Folloudi, c'est-à-dire au contexte de sa traduction de Rabelais, à sa méthode, autant que je le pourrais, hein, je suis tout à fait preneur de vos éventuelles corrections sur les détails de hongrois, et enfin, j'essaierai de dire ce qu'à mon avis Rabelais a représenté pour Folloudi. Alors donc une chose tout d'abord, c'est qu'avant les traductions, et je crois que cela vient d'être rappelé, il y a les colloques universitaires ou les études universitaires. Et c'est vrai que dans le cas de Rabelais, il faut noter que c'est un auteur qui a d'abord été étudié de façon assez détaillée, précise, par des connaisseurs de la langue française du XVIe siècle et du Moyen-Âge, avant d'être traduit. Et donc j'en veux pour preuve la première étude de Ambrush Nemény en 1877. Alors là, on a vraiment une étude qui, si vous voulez, replace l'écrivain Rabelais dans une perspective humaniste avec des chapitres, la vie, le message politique, la religion, l'éducation, etc. Et déjà, Nemény, il faut le noter, rapprochait Rabelais de Villon, notait les emprunts de Rabelais à Villon. Alors en 1909, par une seconde étude d'Abrish Karakash, François Rabelais, Aganiché Geschfeub Esmei, donc à Dieu, et ici on voit encore une étude qui est tout à fait, j'allais dire, au courant de ce qui se fait en France à l'époque, hein, notamment des travaux d'Abel Lefranc, donc professeur du Collège de France et auteur d'une, enfin, coordinateur d'une grande édition de Rabelais. Alors en 1929, paraît une adaptation de Rabelais, pour la jeunesse, donc une adaptation qui est forcément est très peu fidèle, due à András Komor, avec donc dans cette adaptation les gravures de Gustave Doré, qui sont vraiment des gravures très célèbres en France, hein, qui font partie, j'allais dire, du canon rabelaisien maintenant, donc des gravures du 19e siècle. Mais j'en viens au plus important, à la première, le PDF ne va pas au même pas de charge que moi, et je vais vous demander un petit effort de souplesse. Alors ça, c'était la version pour enfants de 1929, heureusement, j'en viens à la traduction de Gargantua en 1936, qui, elle, ne vous fera pas faire d'effort. Et donc, cette traduction, Gargantua, est une traduction de Katalin Kemény, avec un avant-propos de Marcel Benedek, qui compare Katalin Kemény à une héroïne de Yokoi dans sa préface. Hein, il explique que cette brave jeune femme est semblable à une héroïne qui a enfoncé le museau d'un ours dans le framboisier où celui-ci était en train de fouiller. Et donc en fait, il rappelle, si on veut, avec un ton amusé, les performances, si on veut, de cette Kato Kamein, comme il l'appelle. D'ailleurs, il note qu'il avait déjà écrit qu'il faudrait les plumes réunies de Géza Lotzko, Zsigmond Moritz et Dezső Szabó pour traduire Rabelais ce que Kato Kemény entreprend bravement. Voilà. Alors, c'est une édition très intéressante, une vraie édition savante, pourvue de notes, qui doit beaucoup aux travaux d'Abel Lefranc, auquel d'ailleurs la traduction est dédiée. Et il y a une étude très, très intéressante de 89 pages qui précède cette traduction. Donc, c'est vraiment un monument, en fait, hein, des études rabelaisiennes. Alors, en 1900, alors il y aurait quelque chose à dire sur les femmes hongroises et Rabelais, mais je passe sur ce chapitre, ça irait trop loin. Alors, en 1948, paraît la traduction qui nous intéresse, ou du moins une partie de la traduction qui nous intéresse, c'est le Rabelais de Folloudi, plutôt Pantagruel, car sous ce titre, en fait, Folloudi publie Pantagruel, c'est-à-dire le roman paru en 1932, et le tiers livre, c'est-à-dire en fait la suite des aventures de Pantagruel, mais qui n'est pas le second volume publié par Rabelais, parce que le second volume publié par Rabelais, c'est Gargantua, c'est-à-dire le retour sur les aventures du père de Pantagruel. Donc je répète, hein, Pantagruel 1532, 1534 Gargantua, et 1546 le tiers livre, et donc Folloudi, si vous voulez, est fidèle ici à une tradition française qui consiste à regrouper les aventures de Pantagruel, donc parues séparément. Alors, dans cette traduction donc de 1948, Folloudi, évidemment, égale Rabelais à Swift, à Cervantes et à Balzac. Il regrette qu'il n'ait pas encore été traduit. Il peste sur la société hongroise et son caractère arriéré qui a empêché la traduction de Rabelais. Et évidemment, il insiste sur le caractère anti-féodal et anticlérical de Rabelais. On est en 1948. Bon. Alors, je reparlerai de cette traduction, mais il faut retenir donc qu'elle ne comprend que Pantagruel et le tiers-livre, et non pas le quart-livre et le cinquième livre, qui sont annoncés pour plus tard, pour donc un autre volume. Alors, cette traduction est intéressante parce qu'elle a déclenché, si on veut, une série de publications et aussi d'ailleurs de traductions concurrentes. Hein. Je n'en dirai pas grand-chose puisque nous n'avons pas le temps. Mais c'est assez intéressant d'ailleurs, en 1959, il y a une étude de André Boyomi Lazar, ou plutôt, oui c'est ça, André Boyomi Lazar, donc, qui publie une synthèse très intéressante, à la fin de laquelle il y a on peut lire une petite bibliographie, et il ajoute dans une parenthèse assez assassine, en Folloudi fele ad culte chacet nam het folditas sambovenni. Donc, il récuse évidemment le caractère de traduction que pourrait revêtir le travail de Folloudi, ce qui se comprend d'un certain point de vue, je vais en parler. Alors, pour terminer ce tour d'horizon, donc diverses traductions, je l'ai dit, paraissent. Je n'en dis pas grand-chose, sinon que, par exemple, celle-ci n'est pas une traduction complète. Il y a une traduction avec des notes de Otto Schuppeck, pour lequel j'ai une affection toute particulière, depuis que j'ai été stagiaire à l'ambassade de France et que j'ai dû enquêter sur la disparition de la plaque dédiée à la mémoire de Otto Schuppeck, donc à Kolwinkel, au numéro 2. Je vous incite, si vous passez à Kolwinkel, à aller voir cette plaque. Mais bon, c'est amusant, mais c'est en même temps assez touchant le travail de la fille de Otto Schuppeck qui a voulu qu'on rétablisse cette plaque. Bien, alors j'y viens. Rabelais paraît enfin sous sa version complète en 1989 et 1993, hein, et donc c'est la version complète de Folloudi qui paraît après donc le Renservaltage, et j'en dirai un mot très rapidement, simplement pour cette couverture qui est intéressante dans la mesure où elle reprend évidemment les canons stylistiques des frontispices humanistes, et ce frontispice est intéressant dans la mesure aussi, il égale évidemment Rabelais et Folloudi, donc le traducteur vaut bien l'auteur, en quelque sorte. J'en viens enfin à une traduction contemporaine de Rabelais, c'est-à-dire que la traduction contemporaine de Rabelais, une traduction plus exacte, hein, donc c'est une œuvre qui a été continuée, notamment par Adrien Gouillache, dont on peut ici saluer le travail. Hein, donc Adrien Gouillache a publié donc, dans la collection Osiris, aux éditions Osiris, Pantagruel et Gargantua. J'en dirai simplement un mot, c'est que c'est une traduction très fidèle et qui met bien en valeur l'héritage des romans de chevalerie, et on notera que le tiers livre aussi a été traduit et publié en 2017 chez Jaffa Kiodo, mais je ne l'ai pas du tout consulté. Alors, le contexte donc de cette traduction de Folloudi, évidemment le contexte, il faut dire un mot sur la traduction de Rabelais, de Villon pardon, par Folloudi. Alors, Villon a été traduit par Folloudi en 1938, et en 37, pardon, alors que Folloudi avait 27 ans, et évidemment, pour cette traduction très très infidèle, Folloudi hein, s'est prouvé à grandement utiliser, par exemple, une traduction allemande, il ne connaît pas alors si bien que ça le français, et puis aussi, il a ajouté des éléments empruntés à divers auteurs, Bertolt Brecht, enfin, pour cela, je me suis référé à l'étude, en français d'ailleurs, de Marc Martin, une étude très intéressante. Et évidemment, Folloudi, en 1937, a déclenché une forme de polémique. Hein. Donc, par exemple, Charles Eckhart intitule son article, je crois, « Sagan Villon », ce qui veut tout dire. Bien. Alors, j'en viens au fait qu'en 1938, Folloudi quitte la Hongrie pour la France. Hein, donc, il est prévenu qu'on ne lui veut pas que du bien. Et il se réfugie en France, à Paris. Et c'est à cette époque-là, notamment, qu'il achète chez un bouquiniste des quais de Seine, c'est ce qu'il raconte en 1989, une édition de Rabelais, due à un certain Louis Molland, dont voici à peu près, un exemplaire, ou en tout cas, une version. Ce séjour parisien est très important dans la connaissance, je crois, que Folloudi a développé de la culture française, et aussi, bien entendu, ce séjour a une part dramatique, puisque Folloudi, avec le petit cercle de Hongrois qu'il décrit très en détail dans Pokolvalivig Nokyoim, Les Beaux Jours de l'Enfer, paru en 1962 en traduction anglaise, paru en 1965 en français grâce à Ladislas Gara. Donc, le petit cercle décrit par Folludi dans ses mémoires, qui sont aussi en grande partie qui sont truffés d'épisodes fictionnels, donc ce petit cercle doit émigrer dans le sud-ouest de la France et finit par atterrir en Afrique du Nord. Alors, je dirais quelques mots sur ces pages extraordinaires qui m'ont été données de lire à cause de ce colloque dans Pokolvalivig Nokyoim. Ce sont vraiment des pages tout à fait intéressantes où, si on veut, Folludi évoque des discussions sur Aristote, Avicenne, en plein Rif marocain. Enfin, bon, il y a sans doute une part de fantasme, mais c'est tout à fait intéressant. J'en viens au fait que lorsqu'il veut quitter l'Afrique du Nord, Folludi, qui est en contact avec un hongrois peu recommandable, l'Orchi, je suppose en tout cas qu'il faut le prononcer comme ça. Donc Folludi cherche à obtenir des passeports et ce fameux l'Orchi l'introduit auprès des autorités françaises. Hein, et donc il explique Beconferral Tolok, Mint Villon et Schrable Fordito Yat. Enfin, bref, on attend ta présence à la résidence de France. Et donc, bon, Ladislas Gara traduit comme Folludi, le meilleur traduction de Villon et Rabelais. Donc, il surenchérit. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, et Folludi le dit dans un dialogue qui est évidemment sans l'ironie d'auteur, Folludi n'a pas encore traduit Rabelais et il répond à ce fameux Lorchi : comment sais-tu que je voulais traduire Rabelais ? Et évidemment, tout ça fait partie de ces coïncidences. Ils font de Pokolvalivig Nokyoim décidément une sorte de conte de fées en même temps qu'un récit de catastrophe. Voilà. Oui, c'est vraiment Fabrice à Waterloo à certains aspects, Folludi dans ses mémoires. Alors, j'en disais un mot parce que cela dit quelque chose, je crois, en tout cas pour moi, sur l'ironie chez Folludi et donc sur ce que Folludi a répondu à Rabelais. Alors, j'y viens. Le lien entre Villon et Rabelais, en fait, est assez évident pour un lecteur à peu près attentif. Et il est intéressant de noter que dès 1937, à la fin donc de sa traduction, son adaptation de Villon, Folludi cite une étude qui n'a pas l'air importante. Il faut toujours regarder les bibliographies, celle de Louis Thuan, Villon et Rabelais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette étude ne dit à peu près, ne nous apprend rien sur Villon, mais c'est en fait une étude sur l'impact, ou plutôt, pardon, la postérité de Villon chez Rabelais. Donc, c'est une étude très précise où il y a, si vous voulez, des rapprochements évidents. Le personnage de Panurge, le rusé de Pantagruel, est à rapprocher de certains aspects du poète Villon. Et puis en même temps, évidemment, il y a des rapprochements très précis d'expression. Voilà. Alors, j'en viens aux instruments de travail de Folludi, donc qui traduit Rabelais, semble-t-il, en 47-48, du moins il le prétend. Il évoque le fait qu'il a traduit Rabelais tranche par tranche, en consultant des dictionnaires, en utilisant la vieille traduction allemande, donc je suppose celle de Johann Fischart, et aussi donc en utilisant cette édition de Louis Molland, dont j'ai dit quelques mots. Le traitement donc que Folludi réserve à Rabelais, alors j'ai dû sélectionner les exemples, une chose c'est que je me suis fondé essentiellement donc sur la postface du volume de 1989, de la première partie, et puis évidemment je me suis restreint essentiellement à Pantagruel et puis à quelques épisodes d'autres ouvrages. Alors, un premier constat, c'est que donc, sur ce traitement que Folludi réserve à Rabelais, Folludi affirme l'importance des fameux jeux de mots et il affirme un principe intéressant que j'appellerais le principe de compensation. Autrement dit, on peut ne pas traduire tous les jeux de mots, mais l'important est au fond de, si vous voulez, rattraper le coup en traduisant un peu plus loin ce qui n'était pas un jeu de mots en français par un jeu de mots en hongrois. Donc il y a vraiment un principe de compensation. Un principe de compensation qui s'illustre assez bien, notamment dans les listes, j'en dirai un mot. Et puis il y a un principe aussi d'émulation, autrement dit, Folludi, lorsqu'il sent l'inspiration venir, surajoute évidemment à la fantaisie rabelaisienne. Alors je dirais un exemple, c'est un exemple tiré d'une liste, parce que c'est vraiment dans les listes où, que Rabelais donne pour une forme de fantaisie, et Folludi y est sensible, il évoque les listes de Rabelais. Donc c'est le catalogue de la librairie de l'abbaye de Saint-Victor, librairie c'est-à-dire évidemment bibliothèque à l'époque, chapitre 5 de Pantagruel, succession de titres absolument fantaisistes, et notamment Rabelais publie ce titre d'un aiguillon du vin. au lieu d'aiguillon divin, titre classique de la, des ouvrages de spiritualité. Donc c'est un jeu de mots très classique à l'époque, hein, du vin divin, je veux dire tous les curés le font, si j'ose dire. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul Oudy traduit ça par « Bolivache, eushi, eustone » et il en rajoute « Otelikancho, eustokesh, orvin, bolissa, eustoke » Bon, là, je passe, hein, j'ai cherché dans le sujet, etc. Je note que donc ici, il y a vraiment une sorte de principe d'émulation. Alors, principe de compensation, j'ai dit, on pourrait aussi noter le fait en même temps que Paul Oudy, si vous voulez, propose des équivalences dans les variations. Alors, je donne un exemple, c'est la liste, si vous voulez, la généalogie des origines de Pantagruel au chapitre 2 de Pantagruel. Le chapitre 2 de Pantagruel, il y a une sorte de généalogie qui retrace, si vous voulez, cette race, l'histoire de cette race des géants. Et on a une succession de noms qui fait évidemment penser au Liber Generationis Jesus Christus, c'est-à-dire, bref, les généalogies du Christ au début des évangiles, et puis à toutes les généalogies de l'Ancien Testament. Et ce qui est intéressant, c'est que Rabelais ici propose une sorte de litanie. Hein. Et le géant fut Chalbrot, qui engendra Sarabrot, qui engendra Faribrot, qui engendra Urtali, qui fut bon mangeur de soupe, c'est-à-dire de pain trempé dans le potage, au temps du déluge, qui engendra Nembrot, qui engendra Atlas, etc. Alors, vous remarquerez donc que Paul Oudy, c'est la colonne de droite, propose une variation non plus en brot. Alors en fait, Nembrot, c'est, semble-t-il, le noyau de cette variation. Nembrot, c'est Nemrod, enfin Nemrod ou Nimrod, hein, dans la Genèse. Hein, c'est la façon classique d'orthographier ou de déformer ce mot au XVIe siècle. Et donc c'est à partir de là que sont commandés toute une série de noms en hot, hein, qui ont une connotation hébraïque. Et ici donc, si vous voulez, Paul Oudy propose deux, si vous voulez, deux variations. Une variation en Mutsi, Azakbel, Hachevol, Shol en Mutsi, Fol en Mutsi, sans la motive, et ainsi de suite. Et il ajoute quand même, puisqu'il a bien repéré Nembrot, Nimrodot, hein, et il ajoute donc Hopalitot. Alors Hopalitot, c'est en fait la traduction de Urtali. Alors là, j'ai été très impressionné au fond, parce que pour faire le rapprochement entre Urtali et Hopali, il faut quand même connaître l'hébreu. Ou alors avoir lu un ouvrage assez spécialisé de Sénéan, La langue de Rabelais, 1922. Alors, je ne sais pas comment l'a fait Paul Oudy pour rapprocher les deux, mais en tout cas, il est assez fort. Voilà. Donc, un petit mot très rapide peut-être, hein, sur les simplifications. Alors, je passe sur Lim ou Herezotchko, mais c'est intéressant aussi. Les simplifications qu'on trouve chez Paul Oudy, c'est-à-dire que Paul Oudy a vraiment la préoccupation de rendre Rabelais compréhensible, et ça se voit très bien dans ce poème, hein, comme on dit, qui clôt le chapitre qui est 5 de Pantagruel, une sorte de tour de France où Pantagruel va prendre du bon temps dans chaque université en bon étudiant qui ne fait rien, parce que le bon étudiant ne fait rien, bien sûr. Et donc à la fin de ce chapitre, on voit, si vous voulez, la description d'un étudiant expert en jeu de paume et expert en jeu de main pour aller embêter les demoiselles. Et donc, ce portrait de l'étudiant est assez intéressant parce qu'il est beaucoup moins elliptique chez Paul Oudy, beaucoup plus direct chez Paul Oudy que chez Pantagruel, que chez Rabelais. Voilà. Alors, rapidement, l'onomastique aussi, c'est un chapitre très intéressant. Ici, Paul Oudy, d'ailleurs, décrit la façon dont il a trouvé certains noms en se promenant sur les bords du Danube. Je dirais un mot rapide, par exemple, sur l'île de Medamoti, dans le quart livre, hein, en grec, nulle part, qui devient Cherolandia. Ou alors, cette fameuse Niflesset, reine des andouilles, hein, dans le quart livre, chapitre 42. Donc Niflesset, c'est un mot hébreu qui désigne une certaine partie du corps de l'homme, hein, qui ressemble fort à l'andouille, bien sûr. Et donc, Paul Oudy s'explique sur la façon dont il traduit Niflesset. Et Niflesset, il pensait, bon, traduire ça assez banalement par un mot du type forcené ou quelque chose de ce genre, hein, c'est ce qu'il dit, mais il évoque une conversation où il entend l'épisode de la reine Isabelle, hein, chassée de Boudor par les Ottomans, et il décide dès lors, après une véritable illumination, puisqu'on lui cite un vers de Horan sur cette fameuse Isabella, d'appeler Niflesset Penisabella. Bon, voilà. Alors, une dernière chose, évidemment, une invention assez intéressante, c'est Baise-cul, hein, donc ce plaideur qui vient demander justice à Pantagruel, et qui devient, non plus Baise-cul, bien sûr, mais Chegeshkin, hein, donc déformation de Chegeshkin, je passe. En tout cas, c'est tout à fait intéressant. Les choix de Rabelais, en général, d'ailleurs, évitent l'archaïsme. Hein. Rabelais, c'est une langue très très complexe à comprendre pour les Français, dans la mesure où c'est une langue archaïque, et il y a très peu d'archaïsme dans la traduction de Paul Oudy, à part Francior Sag, avec un T, Francior. Mais vraiment, c'est une langue très peu archaïque, et Paul Oudy explique qu'il a au fond préféré la langue du Nougat, hein, et sa subtilité à une langue qui s'approcherait de celle de Boulmémissa, ou une imitation de celle de Boulmémissa. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que reste le problème de cette langue artificielle. Rabelais est une langue saturée d'hellénisme, de latinisme, employée avec une forme d'ironie sur ce caractère savant. Alors, autrement dit, on emploie une langue saturée d'éléments savants, mais en même temps, on n'y touche pas vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a des épisodes où Rabelais, pour le coup, se moque même hein, des hellénismes et de ce surlatinisme chez les savants. C'est un épisode donc, où Pantagruel rencontre un étudiant limousin. L'étudiant limousin est évidemment l'archétype du... Voilà, quelque chose comme ça, hein, pour l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, dans la traduction hein, de ce texte-là, Folludi montre une véritable inventivité, puisque l'étudiant limousin, donc, vous voyez, parle un français vraiment bien trop latinisé. Hein, nous transfrétons la séquoie, nous dilucule et crépuscule, nous déambulons par les compites et quadrivies de l'urbe. Bon, alors, évidemment, il faut avoir du latin en tête pour comprendre cela. Hein, et Folludi traduit de la façon suivante, « Aurora negras pa italiana se van a quartier al promène. » Et je note que la traduction excellente, hein, par ailleurs, de Adrien Gouillache, évidemment, n'arrive pas à produire ce mélange, hein, cette fusion du latin et du français. Les omissions de Folludi, il y en a quelques-unes, notamment dans les liminaires, et je crois qu'elles s'expliquent souvent par le souci d'une forme de clarté. Il me reste
deux minutes.
Alors, en deux minutes, ce que Rabelais représente pour Folludi. Alors, évidemment, Rabelais, pour Folludi, c'est un élément de la culture française contre la fameuse prédominance de la culture germanique. Ça, il en dit un mot dans la postface du volume de 1989. Hein, et Victor Collodi a évoqué cela hier. Donc, je n'en dis pas plus. Il faut noter que Folludi a probablement, je crois, été très sensible à ce que l'on appelle le pantagruélisme. Alors, les études que j'ai citées, hein, celles de 1877, celles de 1909, développent vraiment cette question du pantagruélisme, et c'est vraiment, si j'ose dire, une chose qui a été théorisée par Rabelais. Alors, qu'est-ce que le pantagruélisme ? Alors, le pantagruélisme, dit Rabelais, dans la préface du quart livre, c'est certaines gaietés confites en mépris des choses fortuites. Ah, excusez-moi, je ne retrouve plus la citation, mais c'est quand même ça. Hein, oui, c'est ça. Certaines gaietés confites en mépris des choses fortuites. Et il le dit dans un liminaire du quart livre, c'est-à-dire dans un prologue du quart livre. Il est intéressant de voir que, en fait, le quart livre est accompagné de trois textes publiés par Louis Molland. Et Folludi ne choisit que celui-là, hein, de ne traduire que celui-là. Alors, on pourrait dire aussi que dans l'étude de Louis Thuan, il y a vraiment une insistance sur le fait que Rabelais aurait peut-être, on imagine, médité le fameux « je ris en pleurs » de Villon. Donc, encore une fois, certaines gaietés confites en mépris des choses fortuites avant Rabelais. Au fond, Villon et Rabelais ont ce point commun. Et donc, je dirais juste un mot sur le fait qu'il me semble que Folludi, au fond, a compris un élément essentiel chez Rabelais. On ramène trop souvent Rabelais à une forme de comique apparemment populaire, derrière lequel se dissimule, si vous voulez, une érudition savante. Mais en fait, ce qui est très intéressant aussi chez Rabelais, c'est le statut profondément ambigu du langage. Rabelais est un auteur qui est partout, tout le temps, ironique. Ironique au sens que les linguistes donnent à ce phénomène de langage. Autrement dit, c'est quelqu'un qui joue en permanence un rôle dans le langage. Là, j'emprunte grosso modo la définition d'Oswald Ducrot. Et donc, ce rôle dans le langage permet premièrement de ne jamais se prendre au sérieux, permet, j'allais dire, d'introduire de façon assez naturelle une parodie constante, et puis permet en même temps, évidemment, de mêler hein, fiction et réalité et référentialité, autrement dit, si vous voulez, de dépasser tout ce qu'il pourrait y avoir de référentialité. Et donc, ce que je voulais simplement dire au final, c'est que on voit très bien que, je crois, Folludi a été sensible à cette dimension, et cette dimension, donc, si on veut, d'une parole qui n'est jamais à prendre au sérieux, qui ne s'assume jamais, elle est à ramener aussi au fait que Louis Molland présente Rabelais comme quelqu'un qui a toujours eu peur de la censure. Alors Louis Molland, en une minute, c'est formidable, il propose, donc en bon philologue, il édite le texte de Rabelais de 1542, mais il rajoute les versions précédentes quand il pense que les versions précédentes, si vous voulez, ont été dictées par la peur de la répression. Donc c'est philologiquement, à la fois tout à fait, très peu iconoclaste, je vais dire, parce qu'il est philologiquement assez iconoclaste. Et je crois que Folludi était tout à fait sensible donc, à cette dimension, au fond, qui ferait de Rabelais quelqu'un qui a cherché, au fond, un discours qui ne s'assume pas dans l'idée de ne pas être pris en faute. Et on pourrait rapprocher cela, au fond, de la façon dont Folludi présente Rabelais dans les Burton Verschek, hein, un poème intitulé « Horn Modicris », où il présente Rabelais comme l'un de ses maîtres de l'ironie, qui lui permet, si on veut, de prendre le thé de façon imaginaire, ou plutôt de prendre, de consommer des pains d'épices et du vin de glace, avec des invités du samedi après-midi, Anatole France, Ernest Renan et autres. Donc ça, c'est un poème de Burton Verschek. Donc, je dirais au fond, pour conclure, qu'il y a un mélange très intéressant dans la traduction de Rabelais par Folaudy, d'exactitude philologique, et d'ailleurs, Folaudy revendique le terme, et évidemment de liberté de recréation dans les conditions que j'ai décrites. Hein, il y a un traitement des allusions et, si vous voulez, des références savantes ou des références historiques qui est assez semblable au fond à celui que Agnès Yarfache fait subir à Esterhazy en français. C'est tout à fait saisissant. Donc un phénomène de simplification et une façon de rendre accessible cette traduction. Je noterai aussi que, au contraire de la traduction de Folaudy, de Villon par Folaudy, la traduction de Rabelais par Folaudy n'est vraiment pas une belle infidèle, une recréation totale. Et enfin, donc, je rappellerai ce qui m'a frappé, c'est-à-dire cette transplantation d'une catégorie esthétique, l'ironie du pantagruélisme et de son enjeu moral, puisqu'il faut terminer par là, c'est-à-dire que Folaudy ne cesse donc de cultiver cette légèreté. Alors, j'ai malheureusement pas eu le temps de citer un texte, peut-être un tout dernier, c'est la toute fin de cette postface de 1989 où Folaudy explique qu'il a, après son internement à Retschk, qu'il a eu du mal à retrouver la suite de la traduction qui n'avait pas été publiée en 1948, qu'il avait distribuée avant de partir en déportation,